Enfin, Thérèse, en scrutant l'Évangile, a bien compris la tactique à employer dans nos tentations d'impatience, d'agacement. Et là, je suis sûr que c'est le même enseignement qu'il faut donner aux moines, aux prêtres et aux couples. Il n'y a pas 36 façons. Et là, Thérèse a évolué. Céline l'explique dans Conseiller Souvenir. Au début de sa charge des maîtresses des novices, elle essayait tout de suite de calmer le jeu quand elle avait une novice qui s'énervait parce que le coffre à bois n'était pas rempli comme il devait l'être. Autrement dit, elle télescopait ce que j'appelle la thérapeutique à chaud. Elle voulait tout de suite passer à la thérapeutique à froid. Et je constate dans un certain nombre d'enseignements que certains font la même chose. Ils disent, vous savez, dans les couples, on peut se réconcilier avec le dialogue, avec l'humour, etc. Bon, c'est pas vrai. Quand vous êtes vraiment agacé contre quelqu'un, eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement qu'être agacé. Et comme dirait Thérèse, le Seigneur ne calme pas la tempête. Elle aimait beaucoup une petite image où Jésus dort copieusement dans le fond de la barque. Il ne calme pas la tempête. Vous avez beau venir prier dans la crypte, pendant une demi-heure, si vous êtes agacé par votre belle-mère, en sortant, vous êtes encore agacé. Et ce n'est pas de votre faute. Thérèse a été agacée jusqu'à la fin de sa vie par Thérèse de Saint-Augustin. Elle a prié et elle est restée agacée. Elle a été agacée par son propre père spirituel, le père Pichon, qui s'était mis dans la tête de faire venir Céline au Canada, sous prétexte que Céline ne rentrerait sans doute pas comme quatrième fille Martin au Carmel de Lisieux. Mais il avait dit, n'en parlez pas au Carmel, ça va faire échouer notre entreprise. Quand après la mort de M. Martin, Thérèse apprend que son père spirituel a manœuvré comme un vrai jésuite. Je les aime bien, je peux les taquiner. Elle écrit à sa sœur, j'en ai gros sur le cœur. Elle est agacée par son père spirituel. Tous les saints ont été agacés par des gens d'église. Il ne suffit pas d'être agacé par des gens d'église pour être un saint, d'accord? Ça. Elle ne se culpabilise pas, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend dans le fond de son cœur pour connaître la paix, tout au fond de son cœur, nonobstant cette tempête au niveau de sa sensibilité. Et comme elle est très sensible, elle est très, très agacée. Elle demande aussi à Jésus de la tenir en main pour ne pas exploser, mais surtout, elle offre son sacrifice. Elle croit profondément aux mots de saint Paul, « J'achève en ma chair, en mon cœur, ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Elle croit que ses souffrances peuvent sauver le monde. Et c'est pour cela qu'elle va mettre dans les grandes dates de sa vie, 12 février 1889, la date de l'entrée de M. Martin à l'asile, notre grande richesse. Comme tous les saints, elle ose croire que la souffrance ou le sourire au cœur de sa souffrance, ça sauve le monde. C'est ce qu'il faudra dire à Mère Teresa de Calcutta, à tous les journalistes scandalisés. La souffrance, mes chers amis, pour moi, c'est un don de Dieu. Bien sûr que la souffrance, il faut tout faire pour l'éviter, pour la combattre, par les soins palliatifs et compagnie. Mais la souffrance inévitable, c'est une richesse à ne pas gaspiller. Vous vous rendez compte de ce que cela peut donner à tous les foyers chrétiens qui souffrent actuellement de voir un enfant qui tourne mal, un enfant qui vit en concubinage, un enfant divorcé, des petits-enfants qui ne sont pas baptisés. J'entends cela, moi, à longueur de prédication. Quelle souffrance! Mais si ces personnes-là osent croire à l'Évangile, ça change, ça ne supprime pas la souffrance, mais ça lui donne une autre allure. Et je leur dis, c'est ce que je vais dire, tenez, samedi prochain, à des couples sans enfants. Qu'est-ce que vous souffrez quand vous recevez un faire-part de naissance et qu'on vous demande d'être parrain ou marraine? Vous souhaiteriez tellement être papa et maman. Mais je crois qu'au dernier jour, il y a des centaines d'enfants qui se jetteront à votre cou en disant « Papa, merci, maman, merci ». Parce que en conservant un certain sourire au milieu de cette épreuve, vous êtes papa, vous êtes maman, vous exercez une véritable paternité, une maternité spirituelle. Ou bien les parents qui sont terriblement peinés par leurs enfants entendront ceci se lever devant toute la cour céleste au dernier jour en disant « Vous voyez ces parents, qu'est-ce que nous les avons fait souffrir lorsque nous avions 20 ans ? Mais c'est par les souffrances que nous leur avons causées que nous sommes sauvés. » Isaïe 53, ça ne vaut pas seulement pour les souffrances du Messie, mais pour toutes les souffrances des membres du Messie. Nous sauvons l'Église par les souffrances que l'Église nous fait faire. C'est fondamental. Padre Pio, qui a été interdit de confesser pendant des années, ce merveilleux confesseur, il s'est soumis. Il souffrait par l'Église, par suite d'une injustice, d'une calomnie qui avait été lancée contre lui. Et c'est comme ça qu'il a aussi sauvé le monde. Et vous savez que lorsque le pape l'a béatifié dernièrement, il n'a fait aucune allusion au stigmate. Il a été béatifié non pas à cause de sa stigmatisation, mais à cause de son obéissance héroïque à la volonté du Seigneur, manifestée par les événements de la vie. Donc il ne faut pas télescoper la thérapeutique à chaud, ce que Thérèse ne faisait pas. Les autres, c'est... Prenez l'enseignement de Saint Jean de la Croix, ce sont des ciseaux dont Dieu se sert pour me sculpter. Je dois être sous, comme la statue, sous la main du sculpteur. Et alors, quand ça va un peu mieux, alors on peut dialoguer, on peut faire ce que les couples des équipes Notre-Dame appellent le devoir de s'asseoir, s'expliquer gentiment. Mais là, il y a une différence fondamentale entre un couple et une communauté religieuse. C'est-à-dire que dans un couple, il faut pouvoir se dire gentiment, quand ça va bien, tu sais chérie, tu m'énerves terriblement quand tu dis du mal de ma mère. D'accord, elle a fait des gaffes dans mon éducation et c'est comme ça que tu es obligé de supporter tous mes défauts. D'accord, c'est la difficulté des belles-mères. Elles sont à l'origine de tous les défauts que vous êtes obligé de supporter chez votre conjoint. Voyez bon. Mais tu sais, tu m'énerves quand même quand tu en parles parce que c'est ma mère. On peut pouvoir se dire cela. Tandis que dans une communauté religieuse, on ne peut pas. Sainte Thérèse aurait été odieuse si elle avait dit à Sœur Thérèse de Saint-Augustin « Qu'est-ce que vous m'énervez ?» Et c'est comme ça que Thérèse de Saint-Augustin a cru pendant des années, presque jusqu'à sa mort, qu'elle était la préférée de Thérèse. Et quand il y avait un évêque qui venait à Lisieux visiter les lieux où avait vécu la servante de Dieu, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle se précipitait sur l'excellence en disant « Vous savez, Monseigneur, c'était moi que Thérèse préférait. » Et personne ne l'a détrompée. Jusqu'au jour de 1929, quelques jours avant, quelques semaines avant sa mort, où quelqu'un, le confesseur de la communauté, le chanoine Paul Travers, a osé lui dire « Ma sœur, c'est peut-être pas étonnant que vous avez des difficultés, vous savez, en communauté. Je ne sais pas si je vais vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Même sœur Thérèse de l'Enfant Jésus avait des difficultés avec vous. » Et alors elle a terminé sa vie en voyant que la gentillesse de Thérèse, pour elle, était source et était enracinée dans un profond héroïsme. Je termine par une petite fantaisie que Mgr Gaucher me permettra, il me l'a déjà vu faire, mais quand on s'adresse à des couples, c'est comme si on s'adressait à des enfants. Ça, c'est un ecclésiastique BCBG. Qui a quelques difficultés dans sa vie personnelle. Il a des tentations, tentations d'impureté, tentations de colère contre ses collègues. Et alors il vient prier ici de tout son cœur, « Seigneur, écoute-moi, Seigneur, exauce-moi. » Il prie une demi-heure, et puis quand il revient chez lui, il tombe. Alors il dit, « J'ai pas prié assez longtemps. » Il revient, il prie plus longtemps. Il fait une erreur profonde. Il s'imagine que la grâce est une espèce de super vitamine spirituelle qui vous rendrait plus fort que les autres. Et un jour, il se rendra compte qu'il est comme tout le monde, même si c'est un bel ecclésiastique, et gentil, souriant, bien sûr, hein, il est comme tout le monde. C'est un enfant, pas fortiche, fragile. Et au lieu de s'en lamenter, il va s'en réjouir. Parce que d'oraison en oraison, d'eucharistie en eucharistie, il va tomber dans les mains de Jésus. Et là, il va acquérir force et souplesse. Et par conséquent, lorsque revenu chez lui, il sera de nouveau tenté de tomber, il retombera dans les mains de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'on est bien dans les mains de Jésus. L'ascenseur qui doit me conduire jusqu'au ciel, jusqu'à la perfection, ce sont vos mains, ô Jésus. Tâchez de retenir cela entre ses bras divins. Je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage. Voilà mon ciel à moi. Voilà, je suis content que vous ayez bien écouté. Je vous remercie.